Voilà, donc je présente notre nouvelle intervenante. Je pense que vous avez compris un petit peu notre démarche, le fait que nous allons ouvrir quatre fenêtres sur des domaines de l'activité humaine contemporaine. Et il revient donc à Anne Simonet d'ouvrir la fenêtre de la culture et peut-être plus précisément de la littérature contemporaine. Alors elle le fait avec sa compétence d'enseignante en littérature, sa compétence aussi de critique littéraire. Elle écrit notamment dans la revue Temporelle. Anne Simonet, ben, j'ai déjà, là je vais la présenter en tant que sœur dans l'Institut. Ce qui n'est pas la moindre des choses. Elle est, vous le savez sans doute, doctoresse lettres. Et après un travail qui se poursuit sur Pierre-Emmanuel. Donc je lui laisse tout de suite la parole en la remerciant beaucoup de l'utopie rabelaisienne à l'enfer de Dan Brown que nous dit la culture de l'espérance des hommes. Nous vous écoutons avec plaisir.
Merci. Alors vous devinez bien que traiter en moins d'une heure des liens entre culture, humanisme et foi catholique aujourd'hui est impossible. Donc je vais d'abord situer le propos pour le restreindre et nous n'effleurerons que quelques réflexions essentiellement liées à la littérature. Les mots du sujet d'abord. Le mot culture signifie, tous les agriculteurs vous le diront, ce qui permet de faire pousser les fruits de la terre pour le bien des hommes. Et c'est la culture du blé ou de la vigne ici. La culture signifie ensuite l'instruction, l'éducation qui nous sort de là où nous sommes, qui nous conduit ailleurs. On parlera d'un esprit cultivé et de la culture des sentiments, ce qui suppose que l'être humain se forme et que cette formation permet un mieux. Mais la culture est aussi l'ensemble des traditions, des habitudes que nous avons reçues et que nous recevons de ceux qui nous entourent. Notre famille, notre éducation, bien sûr, mais aussi les médias, les amis. En somme, tout ce qui constitue notre milieu de vie, comme l'eau du bocal et ce qu'il contient, constitue la culture du poisson rouge. Le mot ne signifie plus dans ce cas ce qui nous fait grandir, supposant une action volontaire, au moins en partie, mais une réception passive, souvent, comme nous absorbons l'air qui nous entoure. Nous ne nous en rendons compte que lorsque son odeur nous affecte ou que nous avons des problèmes de respiration. Nous ne pourrons pas respirer dans le milieu culturel du poisson rouge, il ne pourra pas respirer dans le nôtre. Pardonnez-moi ces comparaisons simplistes, il y a des milieux qui, de fait, ne nous aident pas à vivre, qui nous empêchent de respirer librement, simplement par ce qu'ils portent, qui ne correspondent pas à ce que nous sommes. Et ce n'est pas vrai seulement sur un plan physique. Le deuxième mot, humanisme. Dans un livre de culture générale sur le rêve, publié l'année dernière pour des étudiants de brevet supérieur, on lit « Humanisme, courant culturel qui se développe en Europe à partir de la Renaissance » et qui considère la quête de savoir et de connaissances indispensable à l'homme pour développer ses pleines possibilités. J'aime assez cette définition parce que, de fait, contrairement à ce qu'on pense parfois, les écrivains du XVIe, dans le domaine de la littérature, je ne parle pas de la philosophie, ne considèrent pas du tout l'homme comme un absolu et Dieu comme un appendice cancérigène. Cela, c'est la version contemporaine qui nous vient du XVIIIe et plus encore du XIXe. Mais la littérature de la Renaissance n'entre pas dans cette logique. C'est pourquoi m'est d'abord venu à l'esprit Rabelais, grand humaniste devant l'Éternel, qui écrit le premier vrai roman de la langue française, la première saga, diraient les jeunes. Cette série à succès que constitue Pantagruel en 1532, Gargantua en 1534. Rabelais fut un grand ami d'Érasme, on le sait, un ami de Thomas More, on l'oublie plus souvent, car ce dernier est trop catholique. Tous trois partagent le même optimisme mesuré et volontaire face aux progrès de leur époque, le même désir d'aider à démocratiser le savoir, dirions-nous aujourd'hui. Et tous trois écrivent une utopie, car Gargantua est roi d'utopie. Comme Thomas More, Rabelais profite de son ouvrage pour présenter en particulier son idéal de gouvernement et d'éducation. Ces personnages goûtent à la vie avec un appétit qui fait honneur à leur dimension de géant. Le rire que revendique l'auteur dès le prologue en est l'un des signes, comme leur enthousiasme devant le travail, qu'il soit manuel ou intellectuel, leur confiance dans leur prochain, qui n'est jamais naïve, mais toujours décidée à voir en l'autre un frère. Leur humanisme est d'accueil, jamais d'exclusion. L'homme, tout l'homme, l'homme intégral, sans vouloir plagier Maritain, tel est le propos de Rabelais. Dieu y a sa place, sans laquelle l'homme n'a pas de sens. Dans le roman, Gargantua écrit une lettre à son fils Pantagruel, dont on ne trouve souvent que le centre aujourd'hui, la partie dans laquelle Gargantua se réjouit des possibilités nouvelles offertes par son siècle, qui vont permettre la lumière des connaissances contre les ténèbres du Moyen-Âge. Mais on omet de citer le début de la lettre, un regard sur la succession des générations et de la bénédiction que sont des fils. Ceux-ci pourront réussir là où leurs parents ont échoué et achemineront ainsi peu à peu l'homme vers le royaume de Dieu. La génération est donc une joie. On ne cite de même de la fin que la maxime la plus célèbre, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », en oubliant soigneusement le début de la phrase et sa fin. La voici en entier. « Mais parce que, selon le sage Salomon, la sagesse n'entre pas en âme malivole, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il te faudra servir, aimer et craindre Dieu, et en lui mettre toutes tes pensées et tout ton espoir, et parfois, formé de charité, être joint à lui, si fort que jamais le péché ne t'en sépare. Prends garde des tromperies du monde, ne laisse pas la vanité entrer dans ton cœur, car cette vie est passagère, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable envers tes prochains et aime-les comme toi-même. Le lien de cause à effet, parce que et que, il te faudra, dit bien que toute science, toute connaissance n'est que moyen pour une plus grande charité, une relation plus vraie avec Dieu et avec le prochain. 1532, l'utopie. Mai 2013, dernier roman à succès de Dan Brown, Inferno. Avouez que cela pose question. Ce livre a fait la une des librairies des grandes surfaces durant des mois. Les éditions Lattès, qui le publiaient, espéraient en vendre 1,5 million et l'ont certainement fait. La couverture présente un portrait de Dante et renvoie donc immédiatement à la Divine Comédie. Comédie ne signifiant pas ici un genre comique, mais que l'œuvre est écrite en langue vulgaire, l'italien. Le choix de Dante était donc le même que celui de Rabelais, écrire une œuvre accessible à tous. Et comme Rabelais, il contribua à l'enrichissement de sa langue natale de manière tout à fait consciente et voulue. C'est l'œuvre la plus lue en Italie, la plus étudiée et sans doute la plus estimée. Parcours initiatique, comme chez Rabelais, mais qui nous introduit jusqu'au paradis en présence de Dieu et de la Vierge. Qu'en est-il de l'œuvre de Brown ? Le roman semble une figure en miroir des romans rabelaisiens, tant il s'y oppose sur l'essentiel. L'œuvre s'ouvre sur une citation de Dante. « Les endroits les plus sombres de l'enfer sont réservés aux indécis qui restent neutres en temps de crise morale. » Une ombre parle au début, qui se réjouit parce qu'elle va offrir aux hommes la mort contre la vie que souhaitent les faibles. Cette ombre est celle d'un professeur qui s'est suicidé, laissant une sorte de virus qui, en se diffusant dans l'air, rendra stérile le tiers de l'humanité. Ce professeur, en effet, veut sauver l'humanité, lui éviter l'enfer de la surpopulation, d'où le titre. Son virus est le remède, puisque les politiques antinatalistes de l'ONU et des puissances occidentales sont ridiculement inefficaces. Durant tout le roman, le héros, Robert Lambdon, qui est le héros de tous les romans de Dan Brown, est aidé dans sa recherche par une jeune femme très sympathique. Mais cette jeune femme s'avère la disciple et amante du professeur transhumaniste si antipathique du début. À la fin du roman, le lecteur est clairement invité à adhérer aux thèses de la jeune femme. Pour aller vite, un mélange de darwinisme, de malthusianisme et de faux bons sentiments, agrémenté des possibilités technologiques qui donnent tant de crédibilité aux idées les plus folles. Alors Bill Gates et son épouse sont présentés comme les nouveaux saints du XXIe siècle, le terme est employé. L'Église, bien évidemment, ne comprend rien à rien. Si le professeur a dû prendre des mesures si drastiques, explique le roman, c'est parce qu'on refusait de l'écouter et de prendre la mesure du problème. Mais on écoute la jeune femme qui doit poursuivre l'œuvre du professeur, sauver l'humanité. Le terme de sauveur est employé plusieurs fois, car Dieu ne pouvant rien pour l'homme puisqu'il n'existe pas, il faut bien des hommes pour le sauver à sa place. Le langage sert dorénavant à tromper les ignorants, car les savants seuls connaissent la vérité qui nous libérera. Comment donc en sommes-nous arrivés à penser que la naissance soit une catastrophe pour la survie de l'humanité, que l'humain puisse se passer de l'homme après s'être passé de Dieu? Car l'œuvre est symptomatique de tout un courant culturel, bien sûr, amplement diffusé dans la littérature et les arts. Un tout petit peu d'histoire pour comprendre, deux étapes me semblent importantes au XXe siècle. La Première Guerre mondiale suscite en effet une rupture dont nous ne sommes pas remis, qui détruit la confiance dans les valeurs humanistes. Les jeunes hommes qui en réchappent se jurent qu'elle sera l'adère des dères. Certains estiment qu'il faut pour cela détruire la civilisation qui l'a permise, c'est-à-dire, pense-t-il, le christianisme qui a enfanté la bourgeoisie. Ainsi naissent le dadaïsme et son petit frère vite majeur, le surréalisme. Dans les littératures, ils sont présentés comme le seul courant poétique du XXe siècle, composé de doux rêveurs pratiquant l'écriture automatique ou dessinant des cadavres exquis, ces dessins faits à plusieurs sans que chacun sache ce qu'a dessiné le précédent. La réalité est bien différente. Le mouvement s'inscrit dans un projet politique. C'est si vrai que tous appartiennent au Parti communiste et que refuser d'en faire partie exclut d'office du surréalisme. Voici ce qu'on lit dans le second manifeste du surréalisme, publié en 1929 par André Breton. Tout est à faire, tous les moyens doivent être bons à employer pour ruiner les idées de famille, de patrie, de religion. La position surréaliste a beau être sous ce rapport assez connu, encore faut-il qu'on sache qu'elle ne comporte pas d'accommodement. Ceux qui prennent à tâche de la maintenir entendent de jouir pleinement de la désolation si bien jouée qui accueille dans le public bourgeois, toujours ignoblement prêt à leur pardonner quelque erreur de jeunesse, le besoin qui ne les quitte pas, de rigoler comme des sauvages devant le drapeau français, de vomir leur dégoût à la face de chaque prêtre et de braquer sur l'engeance des premiers devoirs l'arme à longue portée du cynisme sexuel. Violence, dérision, destruction des fondements de la civilisation occidentale. En outre, les surréalistes élèvent l'inconscient contre la raison, puisque cette dernière a permis la guerre. Or, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup deviennent résistants, tels Éluard, Aragon, Desnos, quelques-uns s'exilent, Breton en particulier. À la fin de la guerre, le Parti communiste s'assure que seuls ses adeptes et voient dans le monde culturel. Aragon en tête, ils ont pour mission de créer leur propre légende, et l'Oulipo, revue surréaliste de création littéraire, la NRF sont chargés de dire ce qu'il faut écrire et penser. Mais pour beaucoup, la culture, la transmission, l'art comme quête et expression de la beauté semblent définitivement inacceptables puisqu'ils n'ont pas empêché le nazisme. La littérature s'attache alors surtout soit à montrer l'absurde de ceux qui renoncent au langage, c'est ce que fait Ionesco, ou l'absurde de l'homme, Beckett par exemple, soit à détruire les traditions qui avaient prévalu jusqu'alors, montrant qu'on ne peut plus parler au nom du bien, du beau ou du vrai. Il faut faire autre chose, dire l'impermanence, le disloquer, changer de regard sur l'homme incapable de bien. Évidemment, je suis obligée de caricaturer beaucoup, mais le temps l'impose. Notre rapport au réel, à l'homme et à la nature, en ont été changés dans la littérature et l'art. car les idées surréalistes ont trouvé un regain de force en 1968, se sont alors généralisées et sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Dans les années 60, le nouveau roman en particulier instaure l'ère du soupçon, selon un titre de Nathalie Sarraute. Il condamne l'histoire et le personnage pour s'élever contre les romanciers du 19e, atteint, pense-t-il, du complexe de Dieu, puisqu'il s'imagine omniscient, ou contre les romanciers chrétiens tels Bernanos ou Mauriac, qui présentent des personnages dans leur histoire en marche parce que vivants. De même, les poètes les plus reconnus aujourd'hui sont ceux que l'on appelle les poètes du seuil, qui parlent de transcendance, certes, mais d'une transcendance exclusivement immanente, en sorte que le seul ailleurs soit l'au-delà de l'horizon, pas celui de l'âme ou de la mort. Incertitude, là encore. On voit les dernières lueurs du nouveau roman dans le nouveau prix Nobel Modiano. Comme le disait un article de Paris Match le 21 octobre, rien n'est sûr chez Modiano. Tout semble en pointillé, on avance dans une brume légère qui rend tout poétique. À vrai dire, cela rend surtout tout incertain, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la poésie. Jusque-là, j'ai parlé, bien sûr, de la littérature officielle, que les médias diffusent et monnaient. Ceci dit, ce n'est pas ce que lisent les gens ordinaires. Ceux qui ne connaissent pas les milieux culturels, justement, ou qui ne les connaissent que par les médias, c'est-à-dire de moins en moins, et uniquement au moment de la grande braderie de la distribution des prix littéraires. Parce que vous savez, il ne faut pas prendre les prix littéraires trop au sérieux. Alors, comme je ne connaissais pas beaucoup cette littérature-là, eh bien, j'ai fait un sondage dans tout le lycée dans lequel je travaille, donc il y a 550 élèves. On l'a donné aux parents, on l'a donné à l'équipe pédagogique. Et puis, je suis allée à la médiathèque et la médiathèque a confirmé ce que disait le sondage. Car étrangement, la littérature de jeunesse devient celle de beaucoup d'adultes. Alors, évidemment, beaucoup ne lisent jamais, et pas seulement les jeunes. Certains étudiants de BTS n'ont jamais lu un seul livre. Beaucoup d'adultes d'eux-mêmes, ou seulement pour les besoins de leur métier, jamais gratuitement. La culture actuellement, ce sont avant tout les médias, les images, la publicité, Internet, la musique, etc. Ceux qui lisent, en revanche, ne reculent pas devant des ouvrages très longs, du moment que ce sont des romans de fantaisie ou des romans sentimentaux, donc des histoires d'amour ou des histoires d'héroïsme, dans presque tous les cas, des récits initiatiques. La fantaisie leur présente des êtres dont l'apparence humaine cache une essence et des pouvoirs surnaturels. Harry Potter, Twilight, enfin, Nez à minuit, dernier grand succès. Les jeunes savent tout sur les vampires, sur les lycanthropes, rien sur les vaches, les arbres et les oiseaux. Malheureusement, cela fausse complètement leur rapport au réel. Les romans sentimentaux leur plaisent dans la mesure où ils introduisent eux aussi une part de mystère liée au traitement du temps, de l'espace, semblent supposer des pouvoirs de l'homme qu'ils ne maîtrisent pas. La lecture de la pensée, la bilocation, le transport dans le temps. Alors quel homme s'en dégage et que reste-t-il de l'humanisme? Eh bien, que révèlent les œuvres d'abord? Il faudrait presque opposer la littérature officielle, au sens d'art officiel, à celle de l'homme ordinaire. Car si une grande part de la culture contemporaine semble danser sur le vide et vouloir nous y entraîner, elle n'est pas en réalité la plus lue. Le traitement du temps d'abord. Le nouveau roman, nous l'avons dit, détruit l'histoire et privilégie l'instant, la description sans fin, l'immobilisme. Le théâtre de la performance, qui est un héritier direct du surréalisme, fait de même, puisqu'il est par définition éphémère. Mais ce sont loisirs de cultiver. Les gens ordinaires, au contraire, privilégient les ouvrages qui font la part belle à la durée. C'est vrai sur le plan de l'histoire du monde. Par exemple, toutes les œuvres historiques qui sont en grande vogue, quel que soit leur style. La bande dessinée, les séries filmiques, les romans. Les séries fantasy se situent très souvent dans une atmosphère à la fois moyenâgeuse et contemporaine. Je pense aussi au Cheval Rouge de Genio Corti, dont les 1000 pages se posent à rebours de la doxologie marxiste régnant encore dans les milieux intellectuels. Elle est pourtant vendue à des millions d'exemplaires. Ce désir d'histoire et de fidélité se retrouve dans les romans plus intimistes. C'est par exemple le fonds de commerce de Guillaume Musso, l'un des auteurs les plus lus actuellement en France, de 15 à 90 ans. Au centre de tous ces romans, une histoire d'amour dans laquelle un des personnages est mort, va mourir, etc. Et dont la présence s'impose pourtant par des moyens étranges. Les personnages communiquent par exemple via un ordinateur revendu ou sont transportés dans le temps. Pourquoi cela se vend-il ? Et c'est que tout le monde rêve d'un amour qui survive à la mort. Pensez au poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je n'ai pu trouver nulle créature qui m'aima toujours sans jamais mourir. Ce désir de durer est aussi visible dans le succès des séries, écrites ou filmiques. On aime retrouver les personnages d'un épisode à l'autre, d'un volume à l'autre, les voir évoluer. C'est donc bien que l'unité de la personne demeure importante pour chacun. Que voit-on aussi dans toute une littérature ? Le refus de grandir. À la fragmentation du temps correspond, dans une certaine littérature, une fragmentation du personnage. Cela se traduit en particulier par l'absence de responsabilité, le refus, souvent inconscient, de grandir. Les héros, les anti-héros plutôt, sont comme Zep, le créateur de Titeuf, qui reconnaît « J'ai toujours été le papa fun qui fait des blagues à son enfant ». C'est aussi un truc qui est propre à notre génération. On devient adulte, mais on n'arrête jamais d'être enfant. La génération Peter Pan ne l'a pas encore cédé entièrement à la génération Harry Potter. C'est dommage. Mais car dans le même temps, on trouve aussi dans les romans populaires des héros responsables qui risquent leur vie pour ce qu'ils aiment, font des choix réfléchis qui les engagent vraiment. Encore une fois, comment se fait-il que les jeunes aiment tant les ouvrages de fantaisie ? C'est qu'ils présentent de vrais héros, pauvres par certains aspects et dont la pauvreté devient un élément de leur force parce qu'elle les incite à faire mieux que ce qu'ils ont reçu sans pour autant condamner le monde des adultes. De même, sont tout à fait heureuses les séries qui évitent le manichéisme. Et Harry Potter est en ce sens remarquable. L'une des grandes leçons du héros sera d'apprendre que nul n'est tout bon ou tout mauvais, y compris lui-même, qui porte une part du personnage le plus sombre de l'histoire. Une autre valeur essentielle et nouvelle dans bien des œuvres est la conviction que le pardon est nécessaire. Bien sûr, tous font comme si l'homme pouvait pardonner par ses propres forces, et il se manifeste parfois dans des actes parfaitement répréhensibles. Dans le second tome de l'épée de vérité, le héros peut enfin tuer son tortionnaire lorsqu'il l'aime assez pour lui pardonner ses tortures. C'est tordu, c'est entendu, mais la nécessité du pardon est justement la deuxième leçon du sorcier, donc ce qu'il devait apprendre. La perte du visage maintenant. Il faudrait s'interroger sur la place de la sexualité dans la littérature. Sade, grâce au surréaliste dont il était le modèle, a fait bien des disciples. Là encore, le théâtre de la performance est éclairant. Réflexion de Magnès qui travaille à la Société des auteurs à Bruxelles. « Tu comprends, » me dit-elle un jour, « arriver nu sur la scène en courant, ça n'a aucun intérêt. Cela pouvait peut-être choquer dans les années 50, mais maintenant, tout le monde fait ça. » Et encore, je ne parle pas des films ou des séries pornographiques que tant regarde maintenant sans retenue un étudiant de BTS en cours, s'il vous plaît. Viennent avant tout, pardon, le plaisir, l'immédiat, ou pire, la scatologie, la mutilation ou la destruction du corps. La littérature, vous le savez, est soit prophète, soit reflet de ce que vit la société qui l'a fait naître. Le vocabulaire des livres, les images des bandes dessinées sont de plus en plus crues. Et décrivent sans la moindre retenue tous les actes, toutes les tentations, tous les aspects du plaisir sexuel et bien sûr désirent le susciter chez le lecteur. Le meilleur des mondes d'Huxley avait annoncé cette dérive, nous sommes en plein dedans. Et il nous faut faire très attention lorsque nous parlons à des jeunes que leur vocabulaire est terriblement érotisé. Résultat, on nous montre tout dans les œuvres sauf l'essentiel, le visage, n'existe pour ainsi dire plus, qui dirait la profondeur des êtres. Enfin, on peut noter dans une bonne part de la littérature la perte du lien entre le bien, le vrai et le beau. Le mouvement a été initié par Baudelaire, qui disait « Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu. » Mais lui avait encore le sens du bien et du mal, et les fleurs du mal présentent précisément le parcours du poète et de l'homme qui essaie d'échapper à cette double postulation simultanée vers Dieu et vers Satan, que seule la mort fera peut-être disparaître. Depuis, avec le surréalisme et tous ceux qui ont voulu élever la culture contre les valeurs chrétiennes, on a fait beaucoup mieux. L'important n'est même plus de faire beau, il est de choquer. Cela donne le sapin sur la place de Vendôme en octobre de cette année, la dérision systématique des œuvres d'art, le détournement des valeurs, la recherche du décalé. Autre point, la tentation de la toute-puissance. La métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb s'ouvre sur ces lignes. Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide ni vague. Il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et Dieu vit que cela était bon. Pour rien au monde, il n'eût créé quoi que ce fût. Le rien faisait mieux que lui convenir. Il le comblait. Dieu était l'absolue satisfaction. Il ne voulait rien, n'attendait rien, ne percevait rien, ne refusait rien et ne s'intéressait à rien. La vie était à ce point plénitude qu'elle n'était pas la vie. Dieu ne vivait pas, il existait. Sauf que Dieu, ici, c'est elle, bébé, encore dans le ventre de sa mère. Vous voyez comme il est facile de détourner des textes religieux ou philosophiques. Ce peu de respect pour les textes d'autrui, c'est à mes yeux un des signes de ce désir de toute puissance, au-delà même de ce qui est écrit. Cette tentation se trouve dans beaucoup d'œuvres. Dans les autobiographies, par exemple, si nombreuses aujourd'hui. Tout autobiographe, disait Mauriac, cherche à se justifier devant Dieu. Maintenant, elles se passent très bien de lui, posant leur histoire comme le centre d'où part la vérité. Cette tentation de la toute-puissance se manifeste dans beaucoup de romans de science-fiction ou de fantasy. Et je pense à une série de Jérôme Camus, Malorne, qui est certainement l'une des plus puissantes séries contemporaines et résolument antichrétienne, très finement antichrétienne et transhumaniste. Croyez-moi, la logique de cette fiction y est redoutable. Nous pourrions parler d'Avatar, le film qui a paru récemment, ou de Transcendance, paru cet été, des livres de Houellebecq, évidemment. Pensez à l'éloge du meilleur des mondes, dans les particules élémentaires, accusant d'hypocrites ceux qui critiquent cette société. Enfin, dans la société du meilleur des mondes, dit-il, y sont résolus les problèmes de la souffrance, de la guerre, etc. Enfin, l'homme y est libre d'être heureux et libre de sa sexualité. Le même livre nous présente une autre forme de la tentation de la toute-puissance, celle qui consiste à vouloir désespérer l'homme, à l'enfoncer dans la médiocrité et le « à quoi bon ?», l'un des démons les plus puissants de notre époque. Car celui qui juge se sent au-dessus de cette médiocrité, puisqu'il peut en parler, et qu'il sait, lui, ce qui est bon, ou qu'il n'y a rien de bon. En revanche, je dois dire que je ne trouve pas dangereux les ouvrages qui présentent des pouvoirs surnaturels attribués aux sorciers ou autres personnages de fantaisie. Les gens ne font pas de confusion avec leur vie quotidienne et n'essaient pas d'acquérir ces pouvoirs. Ils en rêvent, comme nous avons rêvé de pouvoir voler pour échapper aux problèmes, mais c'est tout. Je trouve plus dangereux de vouloir mêler dans certains romans, et en particulier dans des romans pour les enfants ou pour les jeunes adolescents, les personnages bibliques ou angéliques à des personnages humains contemporains. Il est ensuite facile aux jeunes de dire que les anges ne sont pas plus réels que les êtres magiques de leurs romans favoris. Mais on trouve aussi le désir de faire le bien. J'ai dit que plusieurs œuvres évitaient jusque chez les héros de présenter des personnages trop manichéens. Le fait même, au reste, que le mal y soit toujours appelé le mal et le bien le bien, que le bien soit présenté comme constructeur et le mal comme destructeur, est déjà si important. Là encore, il me semble qu'il y a un décalage entre la littérature dans le vent et les autres. Et c'est plutôt à l'honneur des gens ordinaires. Pensez aux héros de tout poil, mais aussi bien à Amélie Poulain, et pourtant j'aime pas ce film, aux sagas héroïques ou aux films et aux bandes dessinées sur les recherches ADN, sur le lien entre l'homme et la machine, de iRobot, Extant qui passe en ce moment, à L'Alter Ego, une bande dessinée racontant l'histoire d'une société qui prétend guérir et prévenir le sida, mais en profite pour séquencer l'ADN de tous, imposer à chacun un implant traceur, et profite des pays pauvres pour faire des essais médicamenteux, etc. La phrase d'exergue de cette série de bandes dessinées est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tous mettent en garde contre le désir de toute puissance. Alors la foi catholique a-t-elle quelque chose à dire? Eh bien, notre foi nous demande de voir dans le prochain un visage du Christ, de croire, de vivre que chacun, et d'abord moi-même, ne peut être sauvé que par le Christ. Elle nous rappelle souvent, par le culte des saints, par notre rapport à l'Église, que l'unité du corps est essentielle, que nous sommes tous liés par la communion des saints dans le corps du Christ. Que pouvons-nous donc, nous, gens ordinaires? Il me semble que nous avons d'abord un devoir de vérité qui est un devoir de charité. Il nous est facile de voir ce qui ne va pas, cela crève les yeux quelquefois. Mais c'est là le danger, nous laisser crever les yeux, en sorte que nous ne parvenions plus à voir autre chose. Les fermer n'est pas plus efficace d'ailleurs. Nos autres sens fonctionneront encore, et les supprimer serait refuser toute incarnation, donc refuser notre vocation d'homme et de femme. Nous pouvons en revanche refuser la nouvelle langue imposée de plus en plus par les gouvernements et les médias, refuser l'appauvrissement de la langue, refuser les mots à la mode. Le langage des médias est de plus en plus violent. Nous assistons à une course au jugement et à la division, voire à la haine. Je ne sais pas si vous avez fait attention, le mot « haine » est de plus en plus fréquent. Avoir un vocabulaire nuancé évite les caricatures. Alors, rendons leur poids aux mots. Refusons de sacrifier à la censure imposée, en France au moins, sur un vocabulaire de plus en plus étendu. Refusons d'appeler un chat un chien. Au passage, si nous refusions aussi les abréviations et les sigles, qui sont des moyens commodes soit de cacher la vérité, soit de montrer qu'on appartient au cercle de ceux qui savent. Catholiques, nous respectons la parole et le verbe. Deuxièmement, quand une œuvre se veut provocatoire, blasphématoire, il ne sert à rien d'entrer dans la provocation, d'y participer de quelque manière que ce soit, nous ferions son jeu. Et c'est vrai de beaucoup d'œuvres, pas seulement de la série « Ainsi soit-il ». Ne soyons pas naïfs, nous donnerions des armes à ceux qui veulent nous détruire. Que de telles œuvres existent ne devrait pas nous étonner, qu'elles fleurissent non plus. Mais c'est un courant contre lequel nous ne pourrions que nous épuiser vainement, car nous ne lutterions pas à armes égales. Saint Augustin affirmait, à force de tout voir, on en vient à tout supporter, à force de tout supporter, on en vient à tout accepter. Le drame serait qu'on puisse nous croire capables de tout accepter. Pour le reste, tant qu'on veut nous détruire, c'est que nous sommes vivants. Mais toute la littérature ne s'élève pas contre le christianisme. Et dans ce cas, comme chrétien, catholique, pourquoi ne pas essayer de connaître ce que lit ou voit notre prochain? Parce que nous cherchons à l'aimer et à le comprendre, lui. Connaître, non pas en morceaux choisis, sur les premières pages ou les premières 5 minutes. Il n'y a rien de plus trompeur. Pour juger d'une série, il faut souvent en attendre le dénouement, ce qui nous évite d'ailleurs d'avoir à la juger trop rapidement ou sous l'effet d'une mode. Prendre du temps pour l'autre, ce peut être cela aussi. Il est facile de dire « Je n'aime pas les livres qui font croire que nous pouvons pardonner par nous-mêmes » ou « Oh, encore une histoire de vampire, mais comment peut-on faire lire cela ?» Voyons d'abord ce qu'il y a de beau. Le pardon est encore trop souvent considéré comme un signe de faiblesse. Réjouissons-nous lorsque l'épée de vérité en fait un signe de force. Twilight prend des moyens que nous n'aurions pas choisis pour évoquer la chasteté avant le mariage. Réjouissons-nous de pouvoir en parler avec des jeunes et que certains disent ensuite ce qu'on m'a dit. Pourquoi ne nous l'a-t-on pas dit avant? J'aurais vécu différemment. Nos étoiles contraires, le succès de ces mois derniers, parlent ouvertement et honnêtement de la maladie et de la mort, du souvenir et de l'absence. Pourquoi ne pas prolonger cette réflexion? Si nous avons parlé d'abord de ce qui nous semble beau, juste, vrai, nous serons écoutés lorsque nous dirons ce qui nous gêne dans les œuvres, voire ce que nous refusons. Les œuvres sont comme des morceaux de puzzle. Souvent, nous ne voyons pas qu'en faire, jusqu'à ce que nous ayons l'idée de les retourner, d'en changer l'angle sous lequel nous les regardons. Et peut-être nos interlocuteurs peuvent-ils être amenés à en faire autant ? Ensuite, il me semble que nous avons un devoir d'espérance. Cela aussi est un acte de charité. Croire que non, le monde n'est pas fini. Non, l'homme n'est pas une catastrophe pour l'homme. Non, la vie n'est pas vouée au néant. Mais oui, nous sommes des personnes unifiées, appelées à la liberté, responsables de nos actes, non seulement devant les hommes, dans le temps, mais pour l'éternité, devant Dieu. Et justement, nous pouvons refuser la médiocrité des œuvres, la médiocrité de l'écriture, du scénario, du langage. L'accepter serait mépriser son auteur, comme s'il n'était pas capable de mieux, et mépriser les lecteurs, en pensant qu'ils ne peuvent pas lire mieux. Non, notre foi nous rappelle que chacun de nous vaut le sang du Christ. Sachons rendre compte de l'espérance qui est en nous, en nommant d'autres œuvres plus riches, ou en expliquant pourquoi nous refusons de participer à ce qui nous semble dégrader l'homme, d'aller voir telle exposition, tel film, de lire tel livre que tout le monde a lu, enfin. Prêtons des livres. On en perd beaucoup, évidemment. Mais si d'autres, grâce à eux, grandissent en humanité, qu'importe. Soyons heureux d'hériter d'une culture, d'avoir des aînés qui ont pensé, qui ont écrit avant nous et qui nous lèguent leur richesse. C'est le propre de l'art que de transmettre d'un homme à l'autre tout le poids d'une très longue et inhabituelle expérience, affirmait Solzhenitsyn dans son discours de Stockholm. Partageons-la au deux sens du terme, découvrons-les et faisons-les découvrir. Le mouvement des veilleurs est né autour de littéraires qui ont fait partager de beaux textes parce qu'ils savent leur poids d'espérance et d'exigence. Et refusons la vulgarité et tout ce qui y conduit. Là encore, ce n'est pas rendre compte de la dignité de l'homme que de l'accepter. Dignité de son corps, et nous refusons tout ce qui l'avilit dans l'art, dignité de l'esprit. Pourquoi donc se multiplient les spectacles soi-disant humoristiques ? Il semble que l'on rivalise de moquerie, de dérision, que plus rien n'est de prix. Rabelais mettait son œuvre sous le signe du rire. Son vocabulaire était truculent et très riche. On retrouve un peu de cela d'ailleurs chez Daniel Pénac dans la série des Monsieur Malocène. Trouvons des œuvres qui montrent la beauté de l'homme, de son corps, de ses relations, du don, la beauté de Dieu autour de nous. L'absence de description dans les œuvres de jeunesse me peine pour cela. On ne leur apprend plus à être attentif. Le catholicisme nous donne aussi la conviction que l'homme est fait pour le bien, qu'il est appelé depuis toujours et aimé personnellement infiniment. Ce n'est pas un hasard si l'amour et la famille sont présentés dans tant de séries comme la force la plus puissante, bien plus que tous les pouvoirs surnaturels des êtres magiques. Comme le dit Todorov dans La littérature en péril, l'horizon ultime de la littérature n'est pas la vérité, mais l'amour, forme suprême du rapport humain. En définitive, peut-être pouvons-nous, en tant que chrétiens, ouvrir ceux qui veulent bien nous suivre un moment au mystère de la vie, de l'autre en tant qu'autre, montrer que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, que nous ne nous comprenons pas nous-mêmes, que nous avons besoin d'être sauvés de nous-mêmes et renvoyer à des œuvres qui disent cela. Nous ne pouvons pas toujours parler de Dieu, mais il peut se laisser lui-même deviner et découvrir. C'est l'un des très grands mérites, par exemple, d'une série pour jeunes et jeunes adolescents qui s'appelle Magarkane et qui conserve de bout en bout la logique romanesque. Je signale que cette série est écrite d'abord par un séminariste qui est devenu prêtre depuis, qui écrit plus lentement du coup. Mais c'est l'une des très rares séries pour jeunes que je connaisse qui ne tombe pas dans l'apologétique, qui n'oublie pas le genre romanesque. Et nul ne peut en douter, vous savez. Son auteur souhaite voir ses lecteurs s'interroger sur Dieu, et ils le font. Le 26 octobre 1949 paraissait dans Le Monde un des rares articles de Pierre-Emmanuel accepté par ce journal. Son titre, Où est notre Dieu ? On y lisait ceci. Nos valeurs ne sont pas décadentes, nos croyances le sont. Un certain nombre de mes amis sont des humanistes athées. Ils croient en l'homme dans l'abstrait, mais d'une croyance erratique qui n'a prise sur rien. Toutes les belles déclarations des droits de l'homme ne changent rien au fait qu'aucune société ne peut ou ne veut les prendre en charge ni les imposer. Elles sont plus caduques en naissant que le code de Hammurabi. Qu'est-ce à dire, continuait Pierre-Emmanuel, qu'il est impossible de croire individuellement sans aboutir au désespoir. La foi est collective. Les derniers témoins d'une foi morte sont les feuilles encore vertes d'un arbre abattu. Or, l'humanisme athée n'est même pas cet arbre, c'est une branche de l'arbre chrétien, une branche à demi cassée, mais où la sève circule encore. Fin de citation. Un demi-siècle après, nos valeurs sont décadentes, même si demeure dans le cœur des hommes un désir de bonheur, de vérité et de durée qui est souvent dévoyé. L'humanisme athée a voulu se couper de l'arbre chrétien et devient branche morte. Mais cette année, nous fêtons aussi le centenaire de la naissance de Peggy. Comment ne pas penser, au terme de notre parcours, à la petite fille Espérance ? Nous fêtons demain le Christ III. Dans une semaine commence une nouvelle année liturgique. C'est le moment de refaire cet acte d'espérance qui aide nos contemporains et fait advenir déjà le règne de Dieu. Non pas notre règne, le règne de Dieu, car rien ne lui est impossible. Merci.